Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église et de cette émission consacrée aujourd'hui aux vertus cardinales en particulier, à leur lien avec les vertus théologales et avec d'autres vertus, peut-être moins mises en avant, mais pourtant tout aussi essentielles. Pour en parler, j'ai invité le frère Philippe-Marie Margelidon, membre de la communauté des Dominicains de Toulouse, co-auteur d'un livre récemment paru aux éditions du Cerf et intitulé « De quelques vertus méconnues ». Bonjour frère Philippe-Marie et merci d'avoir accepté de venir parler des vertus majeures ou mineures à Vivante Église.
Bonjour Eric.
Je précise que vous avez coécrit le livre de quelques vertus méconnues avec le père Maximilien Lefébure Dubu, chanoine régulier chez les Augustins de l'abbaye de La Grasse, livre paru donc aux éditions du Cerf dans la collection Patrimoine Thomiste. Il s'agit d'un volume numéro 2, il y avait eu un premier volume sur le même sujet. Comme annoncé dans mon introduction, nous allons d'abord nous intéresser aux vertus dites cardinales, dans l'ordre donc la prudence, la tempérance, la force et la justice. Petit rappel sans doute nécessaire, comment faut-il définir chacune d'entre elles? Qu'est-ce qu'elles recouvrent précisément?
Ce sont des vertus majeures de ce qu'on appelle la vie humaine ou encore de la vie morale. Et comme vous l'avez dit, la première d'entre elles, c'est la prudence, à savoir la vertu selon laquelle et par laquelle l'homme se gouverne lui-même, se dirige, décide, non seulement d'ailleurs vis-à-vis de lui-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Par exemple, on parle de la prudence politique pour l'homme d'État. La deuxième grande vertu, alors je mettrai moi la dernière en second, c'est la justice qui concerne le rapport avec les autres, c'est-à-dire que selon cette vertu et par elle, je suis capable d'avoir des rapports justes les uns à l'égard des autres selon une mesure qu'il faut toujours bien déterminer et établir selon le rang, la place qu'occupent les uns et les autres. La vertu de force, c'est la vertu par laquelle eh bien, je suis capable d'entreprendre et d'endurer, les deux, la force à entreprendre en avant et endurer les coups, les chocs que la vie nous amène assez souvent à connaître. Et enfin, la tempérance, la vertu de la modération pour modérer nos réactions, parfois trop excessives, et aussi modérer tout ce qui est de l'ordre d'un juste et bon plaisir, mais qui ne devienne pas, ne nous omnibule pas au point de nous paralyser, de nous empêcher de faire d'autres biens. Donc ces vertus s'appellent les unes les autres.
La tempérance, est-ce qu'elle ne concerne pas aussi la maîtrise des instincts, de ce qu'on pourrait appeler les instincts?
C'est ça, c'est la vertu où on apprend à maîtriser, plus que dominer, maîtriser ce qu'il y a en nous de pulsionnel, d'instinctif, de premier. Par exemple, l'homme fonctionne beaucoup au plaisir, ce qui est une bonne chose, mais il faut savoir le modérer, parfois même le réfréner pour ne pas qu'il nous submerge au point, par exemple, de ne pas accomplir quelque chose qui serait de l'ordre de notre devoir, qui n'est pas forcément toujours de l'ordre du plaisir. Je prends un exemple.
Et concernant la prudence, est-ce qu'il n'y a pas aussi dedans la notion de capacité à discerner ce qu'il faut faire dans certaines situations et ne pas faire?
Tout à fait. Chaque vertu implique ce discernement. Mais le discernement, il va être guidé ici par la vertu majeure de prudence, justement. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de force, par exemple, sans prudence. Quelqu'un qui est fort, mais qui est imprudent, il deviendra téméraire, il pourra même faire n'importe quoi. Donc c'est vrai que le discernement est impliqué dans chaque vertu, mais que la vertu qui va être directrice des autres, de la justice, de la force et de l'empérance, ce sera la prudence.
Quelle est l'origine des vertus cardinales? À quel moment apparaissent-elles pour la première fois et chez quels auteurs?
Alors d'abord chez les Grecs, ce sont, on peut dire les philosophes grecs, qui ont mis en avant ces vertus, et pas seulement les quatre dont nous parlons, mais d'autres aussi. Et puis, donc, parmi les Grecs, Platon et surtout Aristote. Disons que le grand philosophe des vertus, c'est le philosophe Aristote, donc 4e siècle avant Jésus-Christ. Puis ensuite les Latins, qui vont reprendre ces vertus, le plus connu dans le monde chrétien, qui est postérieur donc, au monde latin, avant le Christ, c'est Cicéron. Et puis après, avec les stoïciens. Hein. D'ailleurs, Cicéron est aussi un stoïcien. Et puis le christianisme, dès le 1er siècle, d'ailleurs même saint Paul en parle dans les Écritures, font référence à ces vertus qui vont être christianisées, que les pères vont adopter. Les plus connus pour nous, les latins, c'est saint Ambroise, et tout de suite après lui, puisque c'est au 4e siècle, la génération juste après, saint Augustin. Et puis après, à l'époque médiévale, nous aurons le grand docteur des vertus, c'est saint Thomas d'Aquin.
Saint Thomas d'Aquin, bien sûr. Alors, j'ai une citation d'Aristote sous les yeux, là, je vais vous demander ce que vous en pensez. « La vertu est essentiellement ce dans et par quoi l'homme se rend supérieur au destin grâce à la maîtrise de ses passions et à l'exploitation de ses possibilités d'action. »
Oui, tout à fait.
On a un peu tout, là.
On a un peu tout. C'est une définition. Il y en a plusieurs hein, chez Aristote, mais celle-là est très illustrative, même explicative. Elle nous donne de mieux vivre. Les vertus donnent à l'homme de se maîtriser, de maîtriser son destin, de ne pas se laisser déposséder de soi-même par, justement, ses impulsions, ses réactions trop immédiates, et ainsi de pouvoir se diriger droitement, correctement, et toujours selon le bien dans la vie. Donc, c'est dire leur importance dans la vie humaine et dans les rapports les uns avec les autres.
Pour saint Augustin, lui, il les relie aux fins dernières, à la fin ultime de l'homme, et à savoir à l'amour de Dieu. Et par exemple, il dit, si la vertu est le chemin du bonheur, que peut être la vertu sinon amour souverain pour Dieu ?
Voilà, vous avez trois mots clés là, vertu, béatitude et amour de Dieu. Donc là, on voit que la christianisation des vertus païennes, dans ce qu'elles ont de meilleur, hein, c'est que les vertus nous conduisent au bonheur, ou en tout cas elles sont chemin du bonheur, et ce bonheur, il se réalise souverainement lorsque la créature humaine cherche ce bonheur en Dieu, en l'aimant. Donc c'est l'amour de Dieu par-dessus toute chose qui est la forme suprême du bonheur humain, auquel nous conduit ce bonheur humain, chacune des vertus, les cardinales, et autour de ces quatre cardinales, toutes les autres vertus.
Pourquoi on les appelle d'ailleurs cardinales, alors que la foi, l'espérance et la charité, dont nous allons parler dans quelques instants, sont appelées théologales ?
Ben, elles sont charnières. Elles sont gonds, hein, cardo, le gond, cardinal, elles sont charnières, elles sont en quelque sorte les quatre piliers autour desquels toutes les autres vertus dont nous allons parler
vont s'articuler.
Sachant qu'il y en a toujours une première qui les commande en quelque sorte, c'est la prudence encore une fois. Hein. Et puis la justice, la force, la tempérance. Et puis au-dessus d'elles, nous en parlerons, il y a les vertus théologales qui sont là vraiment des vertus proprement chrétiennes.
On y vient, ces vertus théologales. Donc pourquoi théologales, bon, chrétiennes ? Est-ce que c'est aussi parce qu'elles sont une forme de grâce ? En tout cas, elles sont données par Dieu.
Oui, c'est ça. Comme vous venez de le dire, elles sont données avec la grâce. C'est ce don de Dieu qui nous fait de nous des fils de Dieu, par exemple dans le baptême. Et elles s'accompagnent, cette grâce, d'une transformation de l'esprit, de l'âme, et notamment de l'intelligence et de la volonté qui sont les facultés et les puissances supérieures de l'âme. Donc on dira que par la foi, qui est un don de Dieu, je connais Dieu tel qu'il s'est révélé et tel qu'il est connu de nous par l'Église. Et puis par l'amour, j'aime Dieu de la manière dont Dieu s'aime lui-même. C'est ce qu'on appelle la charité. Donc ce sont des vertus très hautes qui nous unissent immédiatement à Dieu et qui vont commander, alors là par le haut, toutes les vertus morales dont nous avons parlé à l'instant.
L'espérance, la deuxième des vertus théologales, Charles Péguy disait que c'était la vertu chrétienne par excellence.
Oui,
est-ce
alors,
que vous reprendriez ce terme ?
Oui, oui. Alors, ce n'est pas la vertu la plus haute, parce que la vertu la plus haute, comme dit saint Paul, c'est la charité qui ne passera pas. Mais c'est une vertu très importante parce que c'est la vertu qui nous fait nous mouvoir. Si nous espérons quelque chose, alors si c'est Dieu en plus, ce quelque chose est suréminent, bah il nous permet d'avancer. Quand l'homme ne désespère plus, bah il désespère et il n'agit plus. Il n'est plus en situation de vouloir même quoi que ce soit. Donc, et même pourra-t-il en finir avec la vie. Donc pour la petite fille espérance, comme il l'appelle, entre les deux grandes, dit-il, entre la foi et la charité, en citant Péguy ou en paraphrasant Péguy, c'est une vertu pour lui qui est motrice. Au fond, c'est elle qui donne l'impulsion dans la vie en nous tournant vers le bien et vers ce bien suprême qui est Dieu.
La source des trois vertus théologales, c'est la première épître aux Corinthiens de saint Paul, c'est la première fois qu'elles apparaissent.
Oui, tout à fait. Les trois ensembles, on les trouve formulées par saint Paul à cet endroit.
Et qu'est-ce qu'il en dit, lui, saint Paul ?
Bah, il dit que tout commence par la foi. Hein. D'ailleurs, il en a fait l'expérience sur le chemin de Damas. et que ce sont des vertus qui se tiennent ensemble. Il n'y a pas de foi sans espérance, la foi qui espère, et que croire et espérer en Dieu s'accompagne, sont liés à une autre vertu qui était encore plus grande que la foi et que l'espérance, d'ailleurs qui viennent les animer de l'intérieur, ces deux vertus, là, la foi et l'espérance, à savoir la charité. Il insiste beaucoup sur la charité, saint Paul, comme étant la vertu directrice, hein, la vertu suprême, la vertu informatrice qui donne forme aux deux autres et même à tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous des vertus théologales, à savoir les vertus morales.
J'ai lu que les quatre vertus cardinales et les trois vertus théologales forment ou formeraient les sept vertus surnaturelles. Pourquoi dit-on surnaturel ? Est-ce que c'est le bon terme d'ailleurs ?
Oui, alors on distingue le naturel du surnaturel. Il y a des vertus naturelles, c'est-à-dire qui sont acquises, hein, elles sont innées en leur source, c'est-à-dire qu'elles découlent de notre nature humaine. Donc l'homme est incliné naturellement à la vertu et au bien. Mais il faut les acquérir, il faut poser des actes bons dans l'ordre des vertus pour qu'on devienne vertueux, mais dans l'ordre naturel. Donc ce sont des vertus humaines, naturelles. Ça, c'est les vertus morales. Mais il y a des vertus plus hautes qui sont proprement surnaturelles, qui n'ont pas d'équivalent, si vous voulez, dans l'ordre purement naturel, humain, qui sont théologales, qui ont pour objet Dieu lui-même, et celles-là sont données directement par Dieu. Bien sûr que le naturel et le surnaturel ne sont pas juxtaposés, hein, que le théologal informe le moral, comme le surnaturel informe de l'intérieur le naturel. Donc les vertus humaines se trouvent commandées par le haut, par ce qu'on appelle donc ces vertus théologales, qui sont surnaturelles. Donc vous voyez, il y a une combinaison qui devrait réussir. Il y a parfois des hics dans notre propre vie, au plan très concrètement, mais elles devraient s'organiser et s'harmoniser entre elles, les vertus naturelles et les vertus surnaturelles.
Alors j'en viens justement à la question que j'allais vous poser. Quel rapport entretiennent les quatre vertus cardinales et les trois vertus théologales ? En quoi sont-elles complémentaires et nécessaires les unes aux autres ?
Alors les théologales appellent les vertus morales. C'est-à-dire je ne peux pas être un homme de foi, d'espérance et de charité, vivre selon la charité, si je ne suis pas, à minima, de quelque manière, un homme vertueux, c'est-à-dire cherchant à faire le bien. La charité, c'est quand même la vertu du bien par excellence. Quand elles ne sont pas là, ces vertus morales, la charité va nous pousser à les acquérir. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une vertu très très haute, parce qu'elle va faire que l'homme va chercher à acquérir, avec la grâce de Dieu aussi, hein, faut pas l'oublier, ces vertus que parfois il ne possède pas. Et même, il en a l'opposé, ce qu'on appelle les vices.
Est-ce que les vertus ne fonctionnent pas par paire, voire parfois par trio ? Je veux dire par là, prenons la justice. Hein. Pour vous, c'est même la deuxième des vertus cardinales. Qu'est-ce que la justice sans la clémence ? Mais à contrario, qu'est-ce que la clémence sans la justice ?
Oui. Alors là, vous touchez un thème très important, en tout cas pour saint Thomas, c'est la connexion des vertus. Donc on ne peut pas parler de prudence sans force, disais-je tout à l'heure, mais ici vous prenez un cas tout à fait intéressant, celui de la justice, qui est la manière de réguler nos rapports les uns avec les autres, et la clémence, être clément quand quelqu'un a posé un acte mauvais. Je lui dois en justice une sanction. C'est juste que de sanctionner quelqu'un qui a fait un mal. Seulement, je vais tempérer la justice afin qu'elle ne soit pas raide, on dit raide comme la justice,
oui.
La justice est nécessaire, par quelque chose qui va, en fonction de la personne qui est jugée, en fonction du contexte dans lequel l'acte a été posé, en fonction de l'état du groupe dans lequel aussi cet acte a été posé, ou même de la société, du bien commun de la société, je vais faire un acte supérieur de clémence, je ne vais pas le punir, parce qu'il faut savoir parfois en jugeant d'une chose, et quand il y a une sanction, il y a une punition, il faut y mettre de la clémence de manière à ce que, d'ailleurs, celui qui a été jugé ne le prenne pas comme quelque chose qui serait simplement, s'abattrait sur lui, même si c'est juste qu'il soit sanctionné, hein, mais comme quelque chose de, comment dire, qui deviendrait trop lourd. Donc ça veut dire que l'homme clément qui juge une chose et qui va appliquer une peine, il doit être prudent aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de justice du côté de celui qui juge de quelqu'un à propos d'une chose sans clémence, mais il n'y aura pas de clémence sans une certaine prudence. Hein, une prudence qui doit pouvoir estimer ce qui doit être accompli par cette personne en justice en fonction de ce qu'elle est, de l'état dans lequel elle est, et puis de ce qu'elle doit à la société ou au groupe dans lequel elle se trouve ici et maintenant. Donc ça demande, vous voyez, une juste appréciation de ce qu'il convient de faire en fonction de la nature de l'acte mauvais qui a été posé, en fonction du bien commun social dans lequel on vit et en fonction de la personne qui est le sujet de cette peine. Ce n'est pas simple.
Oui, et je réagis à un des termes que vous avez employés. Être juste, c'est faire preuve de justice, mais ceci faire preuve de justesse au sens où la sanction va être proportionnée à l'acte qu'il a appelé.
Oui, c'est ça, à l'objet de l'acte. Donc ça demande une estimation. Alors il y a des lois, il y a toutes sortes de choses, mais justement aussi, les lois, elles sont générales et il faut l'appliquer ici en particulier. Ce qui va donc faire appel à une forme de justice qui s'appelle l'équité. Donc pas de clémence, hein. Il ne faut pas qu'on devienne injuste par clémence, hein. Il faut punir parfois, il faut pas devenir, ça peut devenir grave. Mais il faut aussi être équitable parce qu'il y a des circonstances qui peuvent justifier qu'on applique la loi. Mais ici, je vais l'appliquer en particulier de telle manière que la personne qui est jugée va pouvoir quand même se réhabiliter par la suite. Elle sera sanctionnée, et peut-être parfois gravement, mais on fera en sorte qu'elle puisse, parce que la peine, elle n'est pas simplement vindicative, il ne s'agit pas de punir pour punir, mais elle doit pouvoir aussi être médicinale, réhabilitante, rééducante. Et donc ça demande justement une juste estimation des choses.
C'est en cela que les vertus se nourrissent les unes des autres et qu'on comprend pourquoi la prudence trône au-dessus de toutes les autres.
Au-dessus de toutes. Tout à fait. Alors après, ça dessine des portraits, si vous voulez, d'individus, hein, de personnes. Il y a des personnes chez qui le sens de la justice est plus accentué. Il y a des gens qui sont toujours tempérants, toujours mesurés, et justement mesurés dans leurs réactions. Parce que vous savez que le péché, c'est ou la faute, hein, c'est ou par excès ou par défaut.
Par défaut, oui. Hein,
donc c'est ce qu'on appelle la médiété.
D'ailleurs, la juste mesure.
La juste mesure. Bah, c'est pas facile, parce que c'est pas arithmétique. C'est pas mathématique, c'est pas mécanique, justement, c'est l'objet de vertu. Donc pour l'apprécier, ça demande de l'intelligence et ça fabrique aussi des types de personnalités différentes. Il y a des gens qui s'en font remarquer par exemple, un très fort sens de la douceur. La douceur est une vertu. Alors que l'autre, quelqu'un d'autre, il se distingue, alors en moins bien, par la colère. Il ne sait pas modérer sa colère. Or, c'est la douceur qui vient modérer sa colère. Et s'il a affaire à une injustice, il sera incapable d'être clément, justement, parce que la colère a pris le dessus. Hein, il veut venger la chose, mais de manière démesurée. Donc, ça dessine des attitudes, des portraits de personnalités très différentes les unes des autres.
Attention à l'hubris, que ce soit dans la douceur ou dans la dureté.
Oui, c'est ça.
Merci pour tous ces rappels et ces explications, frère Philippe-Marie. Nous allons faire une pause dans cette émission avant de parler du livre, de ce deuxième volume de quelques vertus méconnues que vous avez donc coécrit avec le père Maximilien Lefébure-Dubut. Pour cet intermède musical, j'ai choisi de vous faire écouter le premier chœur du Stabat Mater de Francis Poulenc, Stabat Mater Dolorosa.
présence.
Vivante Église, Éric Dupri.
Après cette pause en musique, je retrouve le frère Philippe-Marie Margelidon, membre des Dominicains de Toulouse, professeur à l'Institut catholique de Toulouse, avec qui nous allons poursuivre cette émission dédiée, je le rappelle, aux vertus. La première partie a été consacrée à plusieurs rappels concernant les vertus cardinales et théologales. Nous allons évoquer maintenant celles que vous traitez dans votre livre de « Quelques vertus méconnues », écrit donc avec le père Maximilien Lefébure Dubu, chanoine régulier chez les Augustins de l'abbaye de la Grâce, un livre paru aux éditions du Cerf et sous-titré « De l'humilité à la magnanimité, ces autres vertus ». Est-ce qu'elles sont vraiment méconnues ou est-ce qu'elles ne sont pas plutôt négligées, voire sous-estimées ?
Tout à la fois, elles sont méconnues et négligées. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les possède pas, parce que parfois on ne met pas de mots sur des choses que l'on pratique.
Et oui, c'est Monsieur Jourdain qui fait de la poisson.
C'est M. Jourdain qui fait de la poisson, mais c'est toujours mieux de les connaître, surtout pour les perfectionner. Donc ce sont des vertus méconnues, parce que ce livre fait la suite d'un précédent qui s'appelait « Des vertus oubliées », que j'avais consacré à trois grandes vertus, qui ne sont pas des vertus cardinales, mais néanmoins qui comptent beaucoup dans la vie humaine, à savoir donc la vertu de pénitence, vertu chrétienne, on va entrer bientôt dans le carême, la vertu de religion, l'homme est naturellement un être religieux, mais qu'est-ce que c'est qu'être religieux dans la vie ? Ensuite, nous avons pénitence, religion, et puis j'oublie la troisième, pardon. Et ensuite, avec le père Lefébure, nous avons, je voulais qu'on propose des vertus qui ne sont pas vraiment oubliées, mais qui sont méconnues parce que, dont on parle peu. Elles étaient méconnues parce qu'on en parlait peu. Alors l'humilité, par exemple, on en parle. Mais j'avais remarqué que la bibliographie, si vous voulez, j'avais fait tout un travail de recherche sur la bibliographie de type un peu philosophique ou théologique, entre guillemets, un peu savante sur ces vertus, il y avait très peu de choses. Et puis la dernière, la magnanimité, la vertu de celui qui entreprend de grandes choses, il n'y avait pas non plus beaucoup de choses, au moins depuis une cinquantaine d'années. Alors, en raison de quoi, je me suis dit, après les vertus oubliées, la pénitence, la religion et la chasteté, c'était à l'époque à la suite des scandales de pédophilie. Donc
les abus sexuels
dans l'Église et dans la société, parce qu'il y en a beaucoup dans la société. Donc c'est pour ça que j'avais reparlé de cette vertu dite de chasteté, qui n'est pas une vertu très connue aussi, même oubliée. Être chaste, ce n'est pas forcément très positif. C'est la vertu où on se réfrène, c'est beaucoup mieux que ça. J'avais décidé de parler d'autres vertus, apparemment mineures, si vous voulez, apparemment mineures, qui ne sont pas les vertus cardinales, les quatre, mais qui sont liées à ces quatre vertus et dont on aurait tout intérêt à parler, parce qu'elle concerne plusieurs aspects de notre vie. L'humilité, qui est la vertu première pour un chrétien, être humble devant Dieu, qui est une forme de modestie. La modestie, c'est plus général. L'humilité, ça se dit devant Dieu. Et puis la vertu très grande, très haute, dont saint Thomas parle, à mon avis, fort bien, qui est la magnanimité, à savoir celui qui entreprend de grandes choses. Donc ce n'est pas un gagne-petit, c'est quelqu'un qui entreprend en sachant ce qu'il est, ce dont il est capable, de grandes choses pour lui-même et pour d'autres, éventuellement pour la société. Et ça, ça fait de grandes âmes, de beaux esprits, des gens dont on se souvient parce qu'on en a la mémoire, ils ont été capables d'entreprendre toujours avec justesse de grandes choses. Puis entre les deux, l'humilité et l'humanité, j'ai voulu honorer une dizaine de petites vertus, mais pas comme les dames de petites vertus,
oui.
De petites vertus dont on parle peu et qui mérite d'être connu.
Alors, on va évidemment essayer de ne pas les passer au peigne fin, ce serait un grand mot, on n'a pas le temps pour ça, mais en tout cas de les aborder toutes. Mais pour revenir plus généralement sur ce livre, vous avez voulu consacrer tout un livre à ces vertus oubliées ou méconnues. Or, d'une part, parce que il n'y avait pas grand-chose dessus,
non.
Rien d'exhaustif aujourd'hui.
Pas d'exhaustif.
Il y a un manque dans la bibliographie, c'est ce que vous avez dit. Mais aussi parce que je crois que vous considérez que ce sont la clé du bonheur, les pratiquer, c'est la clé du bonheur.
Oui, je crois qu'en effet, la pratique des vertus nous conduit au bonheur véritable et à ce bonheur ultime qui est Dieu. On dit d'ailleurs de la morale de saint Thomas, puisque je suis un disciple de saint Thomas, c'est une morale de la béatitude et des vertus. Pas de béatitude sans vertu et pas de vertu sans qu'elle nous conduise à la béatitude qui est ultimement Dieu lui-même. Donc ça m'a paru important d'aborder ces vertus-là parce qu'elles font de nous de vivre mieux, c'est ça. Vivre en homme et en chrétien, avec, selon ses vertus, c'est vivre mieux. Donc je crois que le fameux vivre ensemble dont on nous parle beaucoup, qui est nécessaire à la vie sociale, à la vie humaine, c'est bien vivre ensemble. Non seulement vivre ensemble, mais bien vivre ensemble. Et bien vivre ensemble, ça veut dire vivre selon le bien. Encore faut-il déterminer ce qu'est ce bien. Et donc selon ce bien, c'est-à-dire ce qu'on appelle, dans la morale classique et la morale chrétienne aussi, les vertus. Et pas seulement les grandes, les quatre cardinales, mais quelques-unes d'entre elles qui me semblaient, dans l'état actuel des choses, si vous voulez, dans la culture actuelle, me semblaient devoir être honorées. Et en parler un peu plus qu'on ne le fait, même en parler tout court, parce qu'on personne n'en parlait jusque-là.
Donc ça permet de vivre mieux avec soi-même d'abord, de vivre mieux avec les autres, de vivre mieux en
avec
Dieu.
Avec Dieu.
Les vertus que vous avez retenues dans ce livre, en quoi chacune d'entre elles serait une des clés du bonheur, pas la clé du bonheur en elle-même, mais une des clés du bonheur, qu'est-ce qu'elle nous apporte individuellement et donc collectivement? Alors, je vais en citer quelques-unes. Vous avez parlé de l'humilité, ça je pense que les gens voient à peu près de quoi ils retournent, la modestie aussi. Par exemple, il y a la longanimité. Qu'est-ce que c'est la longanimité?
Alors, être longanime, alors ça relève de la vertu de force. Il y a la vertu cardinale de force, autour desquelles s'organise une constellation d'autres petite vertu par rapport à la grande vertu de force, et notamment la longanimité, à savoir d'être capable d'entreprendre quelque chose sur le long terme et de le vouloir toujours, c'est-à-dire en sachant qu'il y aura des obstacles et qu'il va falloir les surmonter. C'est la vertu aussi, vertu de force, on voit bien qu'elle dépend de la force, qu'elle en est une des formes, hein, de tenir devant les difficultés, de les surmonter de manière vertueuse, de manière juste, de ne pas se laisser décourager et dans le temps, c'est-à-dire que de faire du temps un atout pour soi-même, hein, et pas le temps qui vous épuise, je m'épuise dans le temps, non, en faire un véritable atout. Ben ça s'acquiert par cette vertu qu'on appelle la longanimité, laquelle est connexe d'une autre vertu qu'on appelle la persévérance, et encore d'une autre vertu qu'on appelle la patience. Donc vous voyez, on voit très bien que ce sont des vertus très proches les unes des autres et qui n'existent pas indépendamment les unes des autres. Mais la longanimité, elle se caractérise par longueur de temps.
Effort dans la durée.
Effort dans la durée.
Et vous avez
très bien dit, c'est l'effort dans la durée. Donc faire des efforts, non pas pour je m'épuise à faire des efforts, mais faire des efforts de telle manière qu'elles produisent un effet positif, mais dans le temps.
Alors, vous avez parlé de la persévérance. Attention, la persévérance, on peut persévérer dans l'erreur, vous le savez.
On peut persévérer dans l'erreur. Alors, ça, pour saint Thomas, c'est une vertu, ce n'est pas un vice. Hein. Diabolicum.
Persévérare, diabolicum.
Diabolicum, oui. Alors, c'est la mauvaise persévérance, là.
C'est l'erreur, et quand on persiste dans l'erreur, c'est une faute.
Tout à fait, c'est une faute. Et oui, bien sûr. Mais saint Thomas ne dirait pas, même les anciens, Aristote ou d'autres, ne diraient pas que la persévérance dans le mal est une vertu. Hein. Vous voyez, il s'agit bien de déterminer quel est l'objet de la persévérance. Si c'est un bien ou si c'est un mal. Si c'est un mal, c'est pas une vertu, c'est un vice.
Et je pense que pour chaque vertu, il faut déterminer
pour bien le comprendre, exactement.
Voilà, sur quoi la porte-t-on? Alors, il y a une vertu, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas savoir du tout de quoi je parle, l'eutrapélie. Qu'est-ce que c'est l'eutrapélie?
Alors, l'eutrapélie, c'est une vertu dont parle Aristote et que reprend saint Thomas, à savoir qu'il est nécessaire dans la vie humaine de se détendre, qui n'est pas ne rien faire. C'est pas le farniente. C'est de savoir se détendre et même d'avoir le sens heureux du jeu, du J-E-U, avec les autres. Être capable de se détendre, par exemple en ayant de l'humour, non pas de l'ironie, mais de l'humour.
L'esprit, oui, ce qu'on appelle avoir de l'esprit.
Avoir de l'esprit, mais par ailleurs, hein, pas ironie, avoir de l'humour, d'ailleurs sur soi-même.
De la finesse.
Ça implique de la finesse, hein, et c'est même parfois de la subtilité. L'humour, ce n'est pas la grossièreté, ce n'est pas la vulgarité, hein, ce n'est pas eutrapélie à ce moment-là, mais de savoir se récréer, de se recréer en sachant détendre, surtout quand on a fourni un grand effort. Saint Thomas n'est pas, il ne s'agit pas de la vertu, ça ne consiste pas à tendre un arc en permanence, parce que de toute façon, il pète, hein, l'arc. Et savoir se refaire doucement, mais avec modération, mais non seulement soi-même, mais aussi avec les autres. Donc il y a, dans une communauté, surtout humaine, il est nécessaire d'aménager des moments, des temps heureux, de détente, qui ne sont pas solitaires, enfin, moins solitaires, mais souvent communes.
Il y a une autre vertu dont le nom va un petit peu désarçonner, je pense, nos auditeurs, c'est l'épiqui. Mmh. C'est ainsi que vous l'appelez, mais en fait, c'est l'équité.
C'est l'équité. L'équité, c'est une forme, pour saint Thomas, l'épiqui, ou dite équité, c'est une forme supérieure de justice. Comme nous avons dit tout à l'heure que la loi était générale et qu'il faut savoir parfois l'appliquer en particulier dans des cas tout à fait non prévus par la loi, on va s'inspirer de la loi, de l'esprit de la loi. On va passer de la lettre à l'esprit.
C'est-à-dire qu'on peut transgresser la lettre de la loi pour en respecter l'esprit, pour mieux
respecter. Pour en respecter l'esprit, l'adapter. Donc c'est une transgression relative. Il ne s'agit pas de faire le contraire de la loi, bien sûr. Mais l'adapter au cas particulier que n'a pas prévu immédiatement, directement la loi. Parce que la loi, elle est par essence générale. Et ça, ça demande une vertu supérieure. C'est par exemple la vertu de celui qui dirige d'autres. La vertu du chef, la vertu du supérieur, la vertu du père et de la mère de famille. Ben rien que ça. Toute famille vit avec certains principes, on dira, ou selon des lois, principes. Il faut savoir les appliquer comme il faut à ses enfants pour qu'ils puissent mener une vie ensemble, nous puissions une vie humaine qui soit bonne et qui soit droite. Seulement, il faut ajuster. Donc c'est la vertu, vous voyez, de l'ajustement. Ça demande encore une fois de la prudence, voyez, on vient toujours...
Et d'être juste.
Et de l'intelligence.
Et de la finesse aussi.
Et de la finesse, bien sûr. Justesse, finesse, ça va ensemble.
Une vertu qui est peut-être aujourd'hui, si ce n'est oublié, méconnue, c'est la gratitude, qui n'est pas la reconnaissance, ce n'est pas la même chose.
Oui, il y a l'honneur, la gratitude, la reconnaissance. Oui, alors saint Thomas est un fait de grand cas de cette gratitude dont on dit qu'elle manque beaucoup à notre époque. J'entends
c'est pour ça,
ça.
Que je disais qu'elle est, je pense qu'elle est vraiment méconnue.
Très chose. Méconnue. Je lisais un précédent livre d'Alain Finkielkraut sur l'ingratitude. Nous sommes des ingrats. Pourquoi ? Nous sommes toujours redevables à quelqu'un de quelque chose. Et il est juste, donc vous voyez, c'est lié à la vertu de justice. Il est juste de reconnaître quelqu'un en faisant preuve vis-à-vis de lui de gratitude, c'est-à-dire de le remercier. Ça va même au-delà de la simple reconnaissance. Et en posant des paroles et des gestes de gratitude qui l'honorent, non pas pour le flatter, il ne s'agit pas de la flatterie, ce n'est plus vertu à ce moment-là, mais pour l'honorer pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est. Eh bien, vous savez, il y a des gens qui ne savent pas déjà même dire merci.
Oui, oui.
C'est une forme d'ingratitude. Des enfants qui ne savent pas remercier leurs parents. Ou des parents, éventuellement, leurs enfants. Ou quand on est dans une situation, une relation de, si vous voulez, de même professionnelle ou même religieuse, par exemple, dans mon couvent, il est bon que, sans en faire trop non plus, on ne passe pas son temps à remercier, mais enfin, il est bon de manifester auprès de quelqu'un qui a bien fait, vis-à-vis de moi, en plus sur le long terme, surtout quand c'est répété, de la gratitude. Nous manquons très souvent de gratitude. Ça rend les rapports humains quand même bien plus agréables quand il y a de la gratitude que quand il n'y en a pas.
Il y a une autre vertu que j'ai trouvée dans votre livre, et celle-là, je pense qu'il faut la manier avec des pincettes, c'est la déférence.
La déférence. Alors ça se dit vis-à-vis des supérieurs. La déférence, on ne vit pas toujours dans un rapport d'égalité les uns avec les autres. Nous avons des relations dissymétriques, parce que, par exemple, moi j'ai un prieur, et je suis frère dans un couvent. Vis-à-vis de du frère, qui est un frère, bien sûr, mais qui est actuellement mon supérieur en tant que prieur, je lui dois une certaine déférence. Ça veut dire certains égards, qui sont d'ailleurs codifiés souvent. On marquera vis-à-vis du frère, on marquera de la déférence dans la manière de s'exprimer vis-à-vis de lui, par exemple la manière de tutoyer, la manière de vouvoyer. Vous voyez, il y a des codes langagiers qui permettent de se rapporter les uns aux autres la juste distance qu'il y a entre lui et moi.
Donc, vous voyez, là aussi, il faut trouver la juste mesure dans la déférence, parce qu'il ne faut pas en faire trop non plus, il ne faut pas être dans la courbette,
non,
vous voyez ce que
non,
je veux dire.
C'est pour ça que c'est quand même en partie besoin d'être codifié. Il y a ce qu'on appelle des usages. Il y a de bons, il y a de mauvais usages, mais il faut avoir de bons usages grâce auxquels on sait ce qu'il faut faire pour marquer une juste déférence vis-à-vis de quelqu'un.
Je me rends compte, en vous écoutant, vous faites souvent des liens entre la vertu que je vous propose et d'autres, et souvent les vertus cardinales notamment. Donc on voit bien qu'elles se nourrissent les unes des autres, qu'elles sont corrélées les
oui.
unes aux autres. Est-ce que le défaut de certaines vertus peut être compensé par la pratique d'une autre? Ou est-ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit l'ensemble?
Alors, un vice, d'ailleurs on appelle parfois un autre, il y a aussi une certaine corrélation entre certains vices, mais c'est vrai que une vertu qui est moins marquée chez telle personne est entre guillemets, je vais corriger par une autre qu'il possède mieux. Mais de ne pas posséder une vertu, c'est très embêtant parce que ça déséquilibre un peu tout. Donc nous avons, c'est pour ça que saint Thomas parle de, vous parlez de corrélation très justement, il parle de connexion, on parle de connexion des vertus. Une vertu en appelle une autre. Je ne peux pas avoir, là, vous voyez, la prudence sans la force. Quelqu'un qui n'est pas fort, comment voulez-vous qu'il dirige les autres? Il se dirige soi-même.
Même soi-même.
Hein, il peut avoir un bon jugement, mais quand il va falloir entreprendre, il ne pourra pas parce qu'il n'est pas persévérant, il n'est pas patient, il n'est pas longanime. Pourtant, il voit bien ce qu'il faudrait faire. Il manque pas de jugement, le gars, là, ou la dame. Mais il est imprudent parce qu'il n'est pas fort. Ou alors, il se laisse guider, il voit bien ce qu'il faut faire, mais il est tellement pris par ses passions, il a toujours fait comme ça. Du coup, il va tomber dans un vice. Alors, on ne parle pas de connexion des vertus comme on parle de corrélation des vices. Un vice n'en appelle pas, quand même pas toujours un autre. Heureusement pour nous. Mais voyez-vous, dans l'ordre du bien, et non, c'est différent de l'ordre du mal, c'est pour ça que c'est dissymétrique, hein, le bien et le mal, dans l'ordre du bien, les vertus, elles s'appellent quand même. Hein. Elles ont besoin les unes des autres, elles s'appuient les unes sur les autres.
Je vais terminer par une question un petit peu provocatrice, peut-être. Est-ce que nous devons avoir à l'esprit chacune de ces vertus dans chacune de nos actions, notamment vis-à-vis d'autrui? Est-ce que ce n'est pas un peu boy scout de penser ça ou d'envisager les relations humaines de cette façon?
Non, il faut distinguer la connaissance des vertus et la pratique des vertus. Bien sûr que quand j'entreprends quelque chose, je ne suis pas en train de me dire « est-ce que je suis fort, courageux, tempérant ?» Hein, je fais ce qu'il convient de faire, hein, et je m'y suis exercé par la pratique des vertus et par l'éducation selon les vertus. Cependant, il est bon, je crois aussi, pour quelqu'un qui pratique les vertus sans penser à chaque fois « est-ce que je suis en train d'être juste, en train d'être prudent, en train d'être heureux ?» de les connaître. Parce que plus et mieux on les connaît, ça aide bien à les pratiquer par la suite. Donc il faut bien distinguer, vous avez raison, hein, connaître les vertus d'une part et les pratiquer. On peut pratiquer une vertu sans les connaître. Mais si on les connaît, et mieux on les connaît, je crois que, enfin je suis même certain, parce que l'expérience le montre, on les pratique encore mieux.
En ayant à l'esprit tout de même que l'excès de la pratique d'une vertu peut parfois...
Il n'y a pas d'excès. Il n'y a pas d'excès. Dans l'ordre du bien, il n'y a jamais d'excès. Alors on peut toujours y aller, parce qu'on est toujours en deçà de ce qu'il est possible de faire. Parce que si c'est...
Et pourtant, la tolérance par exemple, c'est une vertu. Est-ce que l'excès de tolérance ne peut pas être nocif?
Alors, saint Thomas ne fait pas de la tolérance une vertu, parce qu'il y a de l'intolérable.
Vous savez, dans notre société, c'est bien
c'est...
comme...
Oui, 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 c'est une vertu, mais
la tolérance, c'est vu comme des vertus.
C'est comme une vertu. Le catéchisme de l'Église catholique parle à un endroit de la tolérance comme vertu. Saint Thomas ne le fait pas, parce que ça, c'est une vertu moderne. Pour saint Thomas, on voit tolérer, on tolère un moindre mal. Quelqu'un de juste sera amené, surtout s'il dirige les autres, à accepter, en raison de la faiblesse humaine, à tolérer un certain mal. Mais vous voyez, c'est souvent au plan moral. Par contre, pour lui, il y a de l'intolérable. Il y a des choses qui ne sont pas tolérables et qu'il faut savoir sanctionner. Et même parfois, dûment sanctionner. Ce qui nous fait appel à une autre vertu dont j'ai parlé dans ce livre, qui s'appelle la vertu de vengeance, qui a beaucoup étonné les lecteurs, qui m'ont dit « Mon père, mais comment vous pouvez parler de vengeance? La vengeance, c'est un mal ». Bien sûr, saint Thomas sait bien que la vengeance est un mal. Mais la vindicta, elle s'éduque. C'est-à-dire que la colère, c'est une passion humaine qui nous donne de nous indigner devant un mal. Je me mets en colère parce qu'on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas faire ça. Il faut corriger la colère par ce qu'on appelle aussi la douceur, ou la mansuétude, saint Thomas l'appelle comme ça. Il faut aussi, il faut savoir, quand on est un responsable, un chef d'État, un chef d'entreprise, savoir sanctionner quand c'est nécessaire, ça veut dire comme il faut, quand il faut, en tenant compte des circonstances, du lieu et des personnes, qui sont impliquées dans le... Donc, saint Thomas, j'ai trouvé ça très remarquable, parce que je ne pensais pas au début que la vengeance était une vertu, quand il explique pourquoi le supérieur doit être capable de sanctionner quelqu'un comme il convient. Eh bien, ça demande beaucoup de vertu.
Eh bien, je croyais poser une question provocatrice et vous êtes beaucoup plus provocateur que moi en érigeant la vengeance au rang de vertu. Mais en tout cas, ça ouvre des pistes de réflexion et même des abîmes de réflexion. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup, frère Philippe-Marie, d'en avoir été l'invité. Merci d'avoir été notre guide dans ce passionnant et très éclairant tour d'horizon des vertus auxquelles nous pouvons tous nous référer. Je rappelle la parution récente de votre livre « De quelques vertus méconnues ». coécrit avec le père Maximilien Lefébure Dubut et paru aux éditions du Cerf. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Merci à tous de votre fidélité à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.